Bienvenue à Inside the Mind, le podcast qui fait place aux artistes et à leur vision de l'art. Aujourd'hui, nous accueillons Grégoire Roland, organiste et compositeur, qui va nous parler de son dernier album, Sheng, et nous plonger dans le monde de la musique contemporaine inspirée par la musique traditionnelle chinoise. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à partager notre podcast. Merci beaucoup et bonne écoute. Vous êtes organiste et compositeur. Quelle approche avez-vous en tant que musicien lorsque vous composez ?
Alors en fait, j'ai une approche à la fois effectivement globale, une approche de compositeur, c'est-à-dire qu'il faut penser la musique dans sa globalité avec tous les paramètres, mais j'ai aussi l'approche d'interprète. Donc c'est ça qui m'intéresse finalement dans le lien entre les deux, entre être compositeur et être organiste. C'est finalement ce lien que je fais entre la pensée de la musique, la schématisation aussi, la rédaction d'une partition, parce que bon, j'écris les partitions, je ne suis pas dans une tradition orale. Donc vraiment tout ce travail un peu d'architecture d'une partition qui va ensuite se projeter dans une interprétation. Et donc c'est ça, c'est pour ça que moi j'aime bien articuler les deux. Parfois je joue mes propres compositions aussi, parce que justement je me place en tant qu'interprète face à ma partition. Et souvent, j'ai des surprises. Parce que parfois, on pense des choses, on se dit « Ah bah ça, ça va bien marcher, etc. » Et puis finalement, quand on joue, après on se dit « Ah non, finalement, je vais peut-être modifier ça, etc. » Et puis parfois, on a aussi le rapport entre nous, notre interprétation en tant que compositeur, parce que le compositeur, il a vraiment, entre guillemets, la tête dans le guidon. Il travaille tout le temps sa partition. Et donc, quand il l'interprète, quand il passe en tant qu'interprète, il a une vision très claire de ce qu'il veut, mais parfois une vision presque trop étroite. Et l'interprète aussi extérieur, parfois, offre une nouvelle vision de l'œuvre. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, à la fois, j'aime bien être à la fois compositeur et interprète, parce que ça me permet vraiment de suivre, on va dire, toute la chaîne de transmission d'une œuvre, de sa création jusqu'à vraiment sa transmission au public. Et en même temps, j'aime beaucoup aussi la présenter à des interprètes qui, eux, vont en faire quelque chose de personnel. Voilà, donc je me situe un petit peu dans toutes ces facettes-là.
Vous êtes très inspiré par la culture asiatique dans vos compositions. Comment avez-vous découvert cette dernière et quels sont les artistes qui vous ont influencé ?
Alors, j'ai toujours été fasciné par la culture asiatique, parce que c'était une culture que je ne connaissais absolument pas à la base. C'est pas ma culture, ma propre culture. Et puis, c'est une culture très riche, j'en ai toujours été un peu fasciné. Mais je l'ai vraiment expérimenté, on va dire, quand... en fait, avec mon épouse, parce que mon épouse est chinoise. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, finalement, que j'ai côtoyé la culture asiatique, culture chinoise plus précisément, mais la culture asiatique de manière générale, au quotidien. Et c'est là où ça m'a vraiment ouvert un autre monde, à la fois artistique, mais vraiment purement culturel aussi, au niveau de la langue, au niveau de l'histoire. Et c'est, voilà, c'est 5000 ans d'histoire, 5000 ans de culture. Et c'est complètement différent aussi dans l'approche philosophique, etc. Donc voilà, c'est comme ça finalement que je m'y suis mis en fait, voilà, progressivement.
Et donc les artistes qui auraient pu vous influencer ?
Alors les artistes, alors c'est un petit peu ce que je disais, c'est que c'est pas forcément des artistes même qui m'inspirent. Alors évidemment, j'ai lu pas mal de choses. Je m'intéresse à beaucoup d'aspects de la culture chinoise. J'ai écrit des pièces, par exemple, par rapport à Lao Tzu, au Tao Te Ching, une pièce pour piano. J'ai écrit autour de Confucius, j'ai écrit autour de Sun Tzu. Donc plein d'auteurs, en fait, même un petit peu de la tradition, on va dire, chinoise. J'ai écrit sur des chansons japonaises aussi, sur... Des éléments de culture coréenne aussi. Mais en fait, plus que des artistes, voilà, c'est vraiment cette culture, en sens que je suis très intéressé par la philosophie chinoise, la manière de penser, et puis la langue. Pour moi, la langue véhicule évidemment la philosophie, la pensée chinoise, la pensée asiatique. Mais cette langue, en plus, elle transparaît aussi dans l'écriture. Donc pour moi, en fait, c'est un tout. Et j'ai énormément travaillé ces derniers temps sur la relation entre la langue, les tons en chinois, parce que c'est une langue tonale, une langue musicale déjà en soi. Le rapport aussi à l'écriture, à la calligraphie, à l'idéogramme, et comment tout ça je pouvais le projeter dans une vision de compositeur, dans une musique qui me serait propre. Et pour ça, alors je renvoie à des pièces comme Sheng, par exemple, pour 6 voix de femme a cappella, où là je suis vraiment parti du mot, et pendant toute la pièce, je déploie ce mot, je l'explore avec toutes les sonorités possibles. Je travaille sur la question du ton, parce que c'est un ton plat, donc c'est presque chanter un son « shang », c'est déjà chanté en soi. Je travaille aussi sur la calligraphie, comment ce mot-là est écrit, trait par trait, et en le codant dans ma forme musicale. Vous voyez, donc en fait, c'est un déploiement, on va dire, culturel, un peu plus global que simplement de s'inspirer d'un artiste ou d'une œuvre d'art, voilà, même si ça, je l'ai fait. Là, c'est peut-être aller plus profondément dans la culture et même dans la langue chinoise.
Comment vous codez justement la calligraphie dans vos œuvres ?
Alors, en fait, il y a plusieurs manières. Alors, par rapport à Sheng, j'ai vraiment utilisé donc les différents traits. Donc, les traits horizontaux représentent plutôt quelque chose qui va être de l'ordre du mélodique. Et les traits verticaux sont soit liés à la percussion, soit liés à l'harmonie. Pourquoi la percussion ? Parce que, en fait, si on prend un sonogramme de bruit blanc, donc souvent la percussion, une percussion, on va dire lambda, ça va être un bruit blanc. Et on voit que c'est vraiment, le sonogramme est vraiment vertical. Et donc je me suis dit, pourquoi pas reprendre finalement ce schéma-là et le mettre en relation avec l'idéogramme. Donc j'ai travaillé là-dessus. Après, il y a d'autres formes de codage possibles, notamment d'un point de vue graphique aussi, dans la partition. Donc un trait qui part un peu de manière horizontale, et ben peut-être que dans la partition, du coup, graphiquement, je vais travailler voix par voix pour avoir quelque chose qui soit plutôt horizontal, avec des voix qui apparaissent progressivement, etc.
Du coup, est-ce que c'est par rapport à la partition, ben, graphique de la musique contemporaine ?
Il y a de la partition graphique. Maintenant, je ne m'intéresse pas que à ce volet, parce que je pourrais, évidemment. Mais pour moi, ce serait presque trop simple, finalement. Parce qu'il suffirait de reprendre l'idéogramme, trait par trait, et puis du coup, de le projeter d'un point de vue graphique. Et puis, l'interprète en ferait quelque chose. On serait presque de l'ordre de la musique improvisée aussi, hein, tout comme beaucoup de partitions graphiques. Mais je pense que voilà, j'avais besoin de coder davantage ce travail autour de la graphie, justement.
Quelle est la particularité de composer pour orgue et pourquoi, selon vous ?
L'orgue est un instrument assez difficile à aborder, et beaucoup de compositeurs en ont peur d'ailleurs. Parce que il n'y a pas deux orgues qui se ressemblent. Donc on va écrire pour en fait un certain orgue. Et il faut avoir une certaine manière, entre guillemets, l'humilité, d'accepter que sur un autre orgue, ça va sonner complètement différemment. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile sur vraiment la manière d'aborder l'écriture pour orgue. Il faut à la fois être très précis en se disant je veux tel timbre, tel type de jeu, telle mixture, parce que on va parler vraiment en termes de couleur aussi. L'orgue, c'est un instrument de couleur. Donc on va essayer de penser à tout ça. Et en même temps, une fois que c'est écrit, eh ben, il faut un petit peu se prendre du recul pour accepter en fait que sur un autre orgue, ça sonne complètement différemment que l'orgue sur lequel on voulait que ça sonne ou sur l'orgue pour lequel on a écrit en fait. Donc voilà, du coup c'est peut-être ça la difficulté de l'écriture pour orgue.
Pourquoi ça pourrait sonner différemment ? Est-ce que c'est par rapport au type d'orgue entre guillemets ou...
Alors oui, c'est par rapport au type d'orgue, parce que tous les orgues sont différemment construits, Déjà, il y a plusieurs facteurs d'orgue qui font des travails un petit peu différents. Ça dépend si c'est un orgue baroque, si c'est un orgue néoclassique, romantique, moderne, symphonique. Bref, il y a plein de types d'orgues. Donc déjà, il faut un petit peu accepter toutes ces différences-là. Et puis, parce que aussi, les lieux sont différents. Donc la résonance de l'orgue, par exemple, quand c'est dans des églises différentes, la résonance va être différente. Le placement de l'orgue aussi sera différent, donc la perception sera différente aussi. Donc il y a la question de la distance aussi. Parfois, bah, si c'est un orgue dans une petite chapelle, ça va pas du tout sonner pareil que quand c'est dans une grande cathédrale. Donc en fait, c'est tout ça en fait qui crée des paramètres en fait à chaque fois différents, et donc l'orgue va sonner différemment et la pièce va sonner différemment.
Est-ce que votre approche change quand vous composez pour orgue ou pour orchestre ou pour chœur, et de quelle manière ?
Alors oui, ça change parce que donc évidemment toutes ces formations dont vous parlez sont riches, très riches de sonorités, très riches de possibilités. Que ce soit évidemment la voix est un instrument très complexe, très riche, avec une multitude de possibilités de traitement sonore. L'orgue, évidemment, aussi, par son principe des jeux, par les différents plans sonores qu'on peut avoir, etc. Et puis l'orchestre, évidemment, par le nombre d'instruments. Donc, en fait, on est à la fois, c'est une grande richesse pour les trois, mais je parlais un petit peu de l'orgue et du fait que il fallait accepter que ça sonne jamais différemment, ça sonne toujours différemment, je veux dire, justement. Par rapport au lieu, etc. Pour moi, l'orchestre, c'est vraiment différent parce que, au contraire, on a des timbres, on sait comment va sonner un bois, on sait comment va sonner une flûte, etc. Même si, évidemment, l'acoustique après des salles change, les différents instruments vont changer, mais globalement, on a une approche peut-être plus précise du timbre et des alliages de timbres, des textures à l'orchestre. Par rapport à l'orgue. Je pense que ça, c'est un élément, en tout cas moi, qui m'interpelle beaucoup. Finalement, quand j'écris pour orchestre et que j'arrive devant l'orchestre, j'ai pas tant de surprises que ça par rapport à ma pièce. Parce que j'ai passé du temps, énormément de temps en fait, à travailler ces textures, à travailler ces alliages de timbres, à travailler mon orchestration, à la penser intérieurement, à l'entendre. Et donc, quand j'arrive devant l'orchestre, je sais ce que je veux. Je sais comment ça va sonner. Ça, c'est quelque chose qui, parfois, avec l'orgue, est beaucoup plus difficile. Il y a certaines partitions pour orgue où, finalement, j'ai mis que des nuances. Et c'est à l'organiste de se débrouiller. Parce que ça dépend tellement, en fait, des orgues que, du coup, je me suis dit, mais ça sert à rien, je vais lui noter ça, ça, ça. Tel jeu, je vais arriver sur l'orgue et ça sonnera pas du tout comme je veux parce que ce sera pas les mêmes conceptions que j'ai, ce sera pas dans la même acoustique, etc. Donc finalement, j'ai parfois travaillé plus en termes de plan sonore pour l'orgue, alors que pour l'orchestre, vraiment je vais travailler les timbres, les alliages de timbres, etc. Donc c'est vraiment des approches très différentes. Pour la voix, alors c'est encore un petit peu différent. Moi j'aime bien avoir le côté. Évidemment très chanté, très lyrique de la voix. Pour moi, c'est une part importante de la voix parce que c'est constitutif de la voix. Mais il y a un autre élément constitutif de la voix, c'est aussi la percussion. Ce sont les deux éléments qui nous permettent de parler d'ailleurs et d'avoir ce langage. C'est vraiment les consonnes et les voyelles. Donc moi, je travaille beaucoup en fait sur ces alliages et en différenciant parfois donc le percussif du chanté. Et ça, je l'ai fait dans plusieurs pièces. Donc, je parlais de Scheng tout à l'heure. Je l'utilise dans cette pièce-là. Dans la pièce Lu aussi, pour 12 voix a cappella. C'est une pièce où vraiment il y a les femmes qui sont vraiment dans un travail vocal très lyrique, pendant que les hommes, eux, font que du percussif. Et après, les rôles s'inversent, et après, il y a un mélange des deux, etc. Donc, je suis vraiment dans cette exploration du percussif. Et du vocal, mais c'est une manière aussi de penser un peu le timbre comme l'orchestre finalement. D'une certaine manière, voilà, je sais, je peux même parfois, et ça m'arrive aussi, de faire des corrélations entre une percussion vocale et une percussion qu'on trouverait dans un orchestre, en me disant tel son vocal, enfin tel travail de la voix, ça va être ma cymbale. Et donc du coup après telle autre percussion, ça va être un tom. Et après je vais créer des alliages aussi comme ça au niveau de la percussion vocale.
Comment vous arrivez à retranscrire justement dans la voix, en tant que compositeur, des percussions par exemple, des choses comme ça?
Alors ça c'est vraiment en travaillant aussi sur... alors ça peut être des analyses aussi spectrales, d'enveloppes spectrales, etc. Des analyses du timbre en fait. Et puis d'essayer de corréler des timbres. Et en fait en explorant aussi toutes nos possibilités vocales. Peut-être de manière un petit peu grossière, une cymbale, et ben en fait on peut l'imiter en faisant des choses comme ça. Enfin voilà, ça, donc ça va être une cymbale peut-être un peu frottée avec un balai, ou voilà, on va travailler en fait ces corrélations là, et en fait essayer de trouver comme ça de différents codes en fait entre les deux types de percussions.
Dans vos œuvres, vous mélangez deux sonorités, celle de l'Asie et celle de l'Occident. La musique asiatique et occidentale diffèrent beaucoup l'une de l'autre, notamment sur l'utilisation des modes. Comment faites-vous pour assembler les deux dans vos compositions?
Alors, il y a des modes qui se recoupent quand même entre la culture occidentale et la culture asiatique. Ce que j'aime, c'est en fait prendre un petit peu des paramètres de chacune des cultures et de créer une forme d'hybridation en fait, donc créer une sorte de culture, une nouvelle culture on va dire, une nouvelle culture sonore. Évidemment j'aurais pas la prétention de construire une culture sur tous les points de vue, mais d'essayer de trouver en fait des éléments sonores qui dont certains sont de la culture asiatique, d'autres plus de la culture occidentale. Et puis d'essayer de créer en fait un objet hybride avec ça, et qui donne du coup cette couleur. On dit ah oui, c'est une pièce. Alors ce sera peut-être effectivement par exemple une pièce d'orchestre. On va dire ah oui, c'est orchestré. On sent qu'il est français par exemple. Je sais pas, parce que il y aura des choses qui feront penser peut-être, je sais pas, à Debussy, à Dutilleux, à Ravel et que sais-je. J'en sais rien. Je me suis pas analysé ça. Je laisse le soin à d'autres. Mais peut-être qu'on pensera à ça, on se dira ah oui, on sent qu'il est français, et puis d'autres diront ah oui, mais on sent qu'il y a des accents quand même, effectivement, de culture asiatique. Voilà. Et en fait, je pense que c'est un petit peu des deux, et je l'espère, parce que pour moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est un objet hybride. Et donc, si on perçoit les deux, sans trop savoir d'ailleurs ce qui est de l'asiatique, de l'occidental, pour moi, c'est gagné. C'est que du coup, la pièce est plutôt réussie. Maintenant, si on me dit, ouais, dis donc, ouais, t'as mis ton mode pentatonique et du coup, ça fait asiatique, bon, là, effectivement, c'est un peu loupé. Enfin, pour moi, c'est pas non plus le but de copier une culture et d'en faire une sous-culture. Voilà, c'est l'appropriation culturelle, il faut vraiment faire très attention avec ça. C'est pas anodin, et puis je pense qu'il faut aussi respecter les cultures, que ce soit la nôtre, l'occidentale. Ou l'asiatique, je pense que vraiment, et puis les autres évidemment du monde entier, hein. Enfin, je pense qu'à partir du moment où on s'intéresse à une culture, il ne faut pas chercher forcément à se l'approprier, mais il faut la respecter avant tout.
Avez-vous une façon particulière d'appréhender le parler chanté que vous utilisez dans votre dernier album, Sheng, notamment dans le premier morceau, Audite Kaeli?
Audite Cheli. Je corrige. alors en fait je vois les passages dont vous parlez effectivement un peu parler, chanter. Il faut savoir que dans la partition tout est écrit note à note, il n'y a pas écrit parler, chanter. C'est simplement que pour moi je rapproche ça d'un geste musical, et du coup j'écris mon geste comme j'écrirais un geste pour la flûte, pour ou pour je ne sais quel instrument, s'il y a ce qu'on appelle une fusée par exemple, quelque chose qui va partir comme ça, une sorte d'envolée un petit peu lyrique. d'un coup, eh ben, je l'écris en toute note au chanteur, à lui de pouvoir le chanter, ou en tout cas de donner l'impression qu'il va chanter exactement toutes les notes. Et c'est pas toujours le cas. Et ça, pour l'enregistrement, on a eu beaucoup de mal sur une ou deux phrases, effectivement, musicales, où le chanteur essayait absolument de faire toutes les notes, et du coup, il osait pas, il le faisait très lentement, il essayait de poser toutes les notes, etc. Et du coup, le geste ne marchait pas. En fait, il fallait simplement, je lui ai dit, non mais, oublie les notes, tu les connais, tu les as inconsciemment dans ta voix, dans ton oreille, chante le trait sans te poser de questions et ça va sortir. Et effectivement, quand il se libérait finalement des notes, eh ben ça marchait. Donc à la fois j'écris tout pour qu'on comprenne bien en fait ce que je veux au niveau des hauteurs, etc. Et en même temps, c'est vraiment corrélé à un geste musical. Geste musical, expressivité. Pour moi, ce sont les deux éléments de ces objets qui sont un petit peu parler, chanter, effectivement. Et en fait, quand on part de ce principe-là, qu'on se dit bah, geste musical et expressivité, finalement, on n'est pas loin de Schoenberg et d'un Pierrot Lunaire ou de quelque chose comme ça. Finalement, je ne réinvente rien, absolument rien. J'utilise avec parcimonie ce genre d'éléments pour créer vraiment des éléments gestuels et d'expressivité. Voilà.
Quelle est la différence, selon vous, et peut-être les enjeux entre faire une musique ou une pièce que vous avez composée en direct devant un public et l'enregistrer?
Alors, pour moi, l'enregistrement, c'est vraiment de construire un objet qui soit une sorte de trace, qui va laisser une trace pour des interprètes futurs, des auditeurs qui souhaitent le réécouter. Voilà, pour moi, c'est une trace qui est importante, mais ça ne remplace pas la création, l'interprétation d'une pièce sur le moment, de manière instantanée, avec ses défauts aussi, mais avec aussi une forme de simplicité, d'élan, et puis de partage avec le public. Le partage n'est pas du tout le même, finalement, quand on partage dans un concert, et ça, c'est le cas quand on est interprète aussi. Hein. Moi, là, ma réponse, elle est aussi en tant qu'organiste. C'est pas du tout la même chose quand on va donner au public, sur le moment, une vision d'une pièce, et qui sera peut-être imparfaite, qui sera aussi avec les défauts du moment, avec peut-être aussi des bruits du public, des choses aussi qui vont être parasites entre guillemets, mais qui vont faire partie en fait aussi de cette musique là alors que l'enregistrement lui est beaucoup plus froid d'une certaine manière. Finalement, on va figer quelque chose. Alors c'est bien de le figer, mais ça ne suffit pas. Par exemple, je m'inquiéterais d'un interprète qui passerait son temps à écouter mes pièces pour pouvoir les interpréter. Je pense que ça, ce serait pour moi une très mauvaise idée. En avoir une trace à l'oreille pour avoir une vision d'ensemble, oui, donc c'est bien d'avoir un enregistrement, de l'écouter. Mais après, je pense pas qu'un enregistrement, il faut vraiment s'en imprégner. Je pense qu'après, il faut aussi se faire confiance en tant qu'interprète, puis laisser les choses se faire et avoir sa propre vision de l'interprétation. Et elle sera pas fausse. C'est pas parce que c'est enregistré que c'est la version de référence. Ça, il faut vraiment se méfier de ça. Et d'ailleurs, souvent, il y a aussi des interprètes qui réenregistrent à plusieurs moments de leur vie des pièces avec des visions différentes. Et ça, je pense que c'est une très belle démarche.
Dans cet album, vous utilisez beaucoup la dissonance, que ce soit par le chant grégorien, mélangeant la musique médiévale et contemporaine, ou par l'orgue. A-t-elle une utilité spécifique pour vous comme exprimée manière d'être ?
Alors, la dissonance, en soi, je me dis pas je vais écrire dissonant. Je me pose pas la question. Ça se fait un petit peu naturellement parce que c'est un outil aussi pour le compositeur. Vous savez, un compositeur, c'est quelqu'un qui a énormément d'outils dans son sac en fait, et qui utilise les outils en fonction de ce dont il a besoin pour s'exprimer. J'aime beaucoup d'ailleurs faire le comparatif aussi, par exemple, avec un artisan. Le compositeur, c'est à la fois un artiste parce qu'il a une vision, une inspiration, une vision artistique de ce qu'il fait. Et en même temps, c'est un artisan parce qu'après, il va travailler les éléments qu'il a, etc. Il va utiliser des outils spécifiques, un peu comme un ébéniste qui va construire un meuble, un beau meuble. Alors, il va avoir la vision du meuble, il va en faire quelque chose d'artistique. Et en même temps, c'est lui qui va poncer, qui va vernir les planches, qui va les découper, etc. Finalement, le compositeur, c'est un petit peu comme ça. La dissonance est un outil parmi d'autres. Et c'est vrai que par rapport au chant grégorien, j'aime bien l'utiliser parce que ça me permet en fait de faire une sorte de figuralisme aussi, notamment dans ma pièce Caligaverunt Oculimei pour voix d'homme et orgue, un figuralisme de la douleur. Donc on a à la fois le chant grégorien qui est un petit peu sous-jacent dans cette pièce, et en même temps il est toujours en dissonance et en tension. La question de la tension des tentes, ça peut-être que j'y reviendrai après, mais c'est un élément aussi important par rapport à cette notion de dissonance. Et puis, par rapport au chant grégorien, la dissonance permet aussi de le projeter, dans un monde d'aujourd'hui, dans un monde contemporain. Ça permet de prendre finalement ce patrimoine qu'on a, cet élément culturel médiéval, et d'en faire quelque chose d'actuel. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui me tient particulièrement à cœur. Et après, par contre, au même titre que la consonance est aussi un outil. Et pour ça, c'est là où je reviens sur la notion peut-être de tension et de détente. Souvent, la dissonance est liée à une forme de tension et la consonance à une forme de détente. Là aussi, j'invente rien. L'école franco-flamande l'avait très très bien comprise, Bach l'avait très très bien compris, et en fait tous les compositeurs travaillent là-dessus, sur cette notion de tension détente, d'arsisthésis, etc. Et donc finalement la dissonance fait partie des outils essentiels pour pouvoir créer une musique expressive. Et c'est cette expressivité au fond que je recherche. Voilà. Après, il y a d'autres utilisations de la dissonance. Ça peut être aussi des accords timbres, par exemple, où en fait, on ne va plus penser à la dissonance par rapport à une consonance, mais elle sera dissonance pour elle-même, en fait, pour créer une sorte de texture, de sonorité qu'on n'a jamais entendue, qui est de l'ordre de l'inouï, peut-être. Donc, il ne faut pas, en avoir peur, d'une certaine manière. Je pense que, voilà, moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, et qui me permet vraiment d'enrichir mon langage et de décrire la musique vraiment que je veux.
C'est tout pour aujourd'hui. Encore un grand merci à Grégoire Roland pour cet échange enrichissant. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Annabelle Hawk, violoncelliste allemande, pour une interview en anglais.